Dans ces circonstances, par une belle nuit du mois d'août, le baron de Nucingen revenait à Paris, de la terre d'un banquier étranger établi en France et chez lequel il avait dîné. Cette terre est à 8 lieues de Paris, en pleine Brie. Or, comme le cocher du baron s'était vanté d'y mener son maître et de le ramener avec ses chevaux, ce cocher prit la liberté d'aller lentement quand la nuit fut venue. En entrant dans le bois de Vincennes, voici la situation des bêtes, des gens et du maître. Libéralement abreuvé à l'office de l'illustre autocrate du change, le cocher, complètement ivre, dormait, tout en tenant les guides, à faire illusion aux passants. Le valet assis derrière ronflait comme une toupie d'Allemagne, pays des petites figures en bois sculpté, des grands ringanums et des toupies. Le baron voulut penser, mais dès le pont de Gournay, la douce somnolence de la digestion lui avait fermé les yeux. À la mollesse des guides, les chevaux comprirent l'état du cocher. Ils entendirent la basse continue du valet en vigie à l'arrière. Ils se virent les maîtres et profitèrent de ce petit quart d'heure de liberté pour marcher à leur fantaisie. En esclaves intelligents, ils offrirent aux voleurs l'occasion de dévaliser l'un des plus riches capitalistes de France, le plus profondément habile de ceux qu'on a fini par nommer assez énergiquement des loups-cerviers. Enfin, devenus les maîtres et attirés par cette curiosité que tout le monde a pu remarquer chez les animaux domestiques, ils s'arrêtèrent dans un rond-point quelconque devant d'autres chevaux, à qui sans doute ils dirent en langue de cheval « À qui êtes-vous? Que faites-vous? Êtes-vous heureux ?» Quand la calèche ne roula plus, le baron assoupi s'éveilla. Il crut d'abord n'avoir pas quitté le parc de son confrère. Puis il fut surpris par une vision céleste qui le trouva sans son arme habituelle, le calcul. Il faisait un clair de lune si magnifique qu'on aurait pu tout lire, même un journal du soir. Par le silence des bois, et à cette lueur pure, le baron vit une femme seule, qui, tout en montant dans une voiture de louage, regarda le singulier spectacle de cette calèche endormie. À la vue de cet ange, le baron de Nucingen fut comme illuminé par une lumière intérieure. En se voyant admirée, la jeune femme abaissa son voile avec un geste d'effroi. Un chasseur jeta un cri rauque, dont la signification fut bien comprise par le cocher, car la voiture fila comme une flèche. Le vieux banquier ressentit une émotion terrible. Le sang, qui lui revenait des pieds, charriait du feu dans sa tête. Sa tête renvoyait des flammes au cœur. La gorge se serra. Le malheureux craignit une indigestion, et malgré cette appréhension capitale, il se dressa sur ses pieds. « Au cran galop, fichi pétate qui tord » cria-t-il. « 100 francs, s'ils attrapaient cette fois tir !» À ces mots, 100 francs, le cocher se réveilla. Le valet de l'arrière les entendit sans doute dans son sommeil. Le baron répéta l'ordre. Le cocher mit les chevaux au grand galop et réussit à rattraper, à la barrière du trône, une voiture à peu près semblable à celle où Nucingen avait vu la divine inconnue, mais où se prélassait le premier commis de quelque riche magasin, avec une femme comme il faut de la rue Vivienne. Cette méprise consterna le baron. « Si j'avais amené Georges, au lieu de toi, grosse bête, il aurait bien si trouvé cette femme !» dit-il au domestique, pendant que les commis visitaient la voiture. « Eh, monsieur le baron, le diable était, je crois, derrière, sous forme d'éduc, et il m'a substitué cette voiture à la sienne. Le diable n'existe point !» dit le baron. Le baron de Nucingen avouait alors 60 ans. Les femmes lui étaient devenues parfaitement indifférentes, et à plus forte raison, la sienne. Il se vantait de n'avoir jamais connu l'amour qui fait faire des folies. Il regardait comme un bonheur d'en avoir fini avec les femmes, desquelles il disait sans se gêner que la plus angélique ne valait pas ce qu'elle coûtait, même quand elle se donnait gratis. Il passait pour être si complètement blasé qu'il n'achetait plus, à raison d'un couple de 1 000 francs par mois, le plaisir de se faire tromper. de sa loge à l'opéra, ses yeux froids plongés tranquillement sur le corps de ballet. Pas une œillade ne partait pour ce capitaliste de ce redoutable essaim de vieilles jeunes filles et de jeunes vieilles femmes, l'élite des plaisirs parisiens. Amour naturel, amour postiche et d'amour propre, amour de bienséance et de vanité, amour goût, amour décent et conjugal, amour excentrique. Le baron avait acheté tout, avait connu tout, excepté le véritable amour. Cet amour venait de fondre sur lui, comme un aigle sur sa proie, comme il fondit sur Gens, le confident de son Altesse royale, le prince de Metternich. On sait toutes les sottises que ce vieux diplomate fit pour Fanny Elsler, dont les répétitions l'occupaient beaucoup plus que les intérêts européens. La femme qui venait de bouleverser cette caisse doublée de fer, appelée Nucingen, lui était apparue comme une de ces femmes uniques dans une génération. Il n'est pas sûr que la maîtresse du Titien, que la Mona Lisa de Léonard de Vinci, que la Fornarina de Raphaël fussent aussi belles que la sublime Esther, en qui l'œil le plus exercé, du Parisien le plus observateur, n'aurait pu reconnaître le moindre vestige qui rappela la courtisane. Aussi, le baron fut-il surtout étourdi par cet air de femme noble et grande, qu'Esther, aimée, environnée de luxe, d'élégance et d'amour, avait au plus haut degré. L'amour heureux est la sainte ampoule des femmes. Elles deviennent toutes alors fières comme des impératrices. Le baron alla, pendant 8 nuits de suite, au bois de Vincennes, puis au bois de Boulogne, puis dans les bois de Ville-d'Avray, puis dans les bois de Meudon, enfin dans tous les environs de Paris, sans pouvoir rencontrer Esther. Cette sublime figure juive, qu'il disait être une figure de la Bible, était toujours devant ses yeux. À la fin de la quinzaine, il perdit l'appétit. Delphine de Nucingen et sa fille Augusta, que la baronne commençait à montrer, ne s'aperçurent pas tout d'abord du changement qui se fit chez le baron. La mère et la fille ne voyaient monsieur de Nucingen que le matin au déjeuner et le soir au dîner, quand ils dînaient tous à la maison, ce qui n'arrivait qu'au jour où Delphine avait du monde. Mais au bout de 2 mois, pris par une fièvre d'impatience et en proie à un état semblable à celui que donne la nostalgie, le baron, surpris de l'impuissance du million, maigrit et parut si profondément atteint que Delphine espéra secrètement devenir veuve. Elle se mit à plaindre assez hypocritement son mari et fit rentrer sa fille à l'intérieur. Elle assomma son mari de questions. Il répondit comme répondent les Anglais, attaqué du spleen. Il ne répondit presque pas. Delphine de Nucingen donnait un grand dîner tous les dimanches. Elle avait pris ce jour-là pour recevoir, après avoir remarqué que dans le grand monde, personne n'allait au spectacle, et que cette journée était assez généralement sans emploi. L'invasion des classes marchandes ou bourgeoises rend le dimanche presque aussi sot à Paris qu'il est ennuyeux à Londres. La baronne invita donc l'illustre Desplein à dîner pour pouvoir faire une consultation malgré le malade, car Nucingen disait se porter à merveille. Keller, Rastignac, de Marsay, du Tillet, tous les amis de la maison avaient fait comprendre à la baronne qu'un homme comme Nucingen ne devait pas mourir à l'improviste. Ses immenses affaires exigeaient des précautions. Il fallait savoir absolument à quoi s'en tenir. Ces messieurs furent priés à dîner, ainsi que le comte de Gondreville, beau-père de François Keller, le chevalier d'Espard, des Lupeaux, le docteur Bianchon, celui de ses élèves que Desplein aimait le plus, Baudenord et sa femme, le comte et la comtesse de Montcornet, Blondet, mademoiselle des Touches et Conti. Puis enfin, Lucien de Rubempré, pour qui Rastignac avait depuis 5 ans conçu la plus vive amitié. Mais par ordre, comme on dit en style d'affiche. Nous ne nous débarrasserons pas facilement de celui-là, dit Blondet à Rastignac, quand il vit entrer dans le salon Lucien, plus beau que jamais, et mis d'une façon ravissante. Il vaut mieux s'en faire un ami, car il est redoutable, dit Rastignac. Lui, dit de Marsay, Je ne reconnais de redoutable que les gens dont la position est claire, et la sienne est plus inattaquée qu'inattaquable. Voyons, de quoi vit-il? D'où lui vient sa fortune? Il a, j'en suis sûr, une 60 000 francs de dette. Il a trouvé dans un prêtre espagnol un protecteur fort riche et qui lui veut du bien, répondit Rastignac. Il épouse mademoiselle de Grandlieu, l'aînée, dit mademoiselle des Touches. Oui, mais, dit le chevalier d'Espard, on lui demande d'acheter une terre d'un revenu de 30 000 francs pour assurer la fortune qu'il doit reconnaître à sa future. Et il lui faut 1 000 000, ce qui ne se trouve sous le pied d'aucun Espagnol. C'est cher, car Clotilde est bien laide, dit la baronne. Madame de Nucingen se donnait le genre d'appeler mademoiselle de Grandlieu par son petit nom, comme si elle, née Goriot, hantait cette société. Non, répliqua du Tillet, la fille d'une duchesse n'est jamais laide pour nous autres, surtout quand elle apporte le titre de marquis et un poste diplomatique. Mais le plus grand obstacle à ce mariage est l'amour insensé de madame de Sérisy pour Lucien. Elle doit lui donner beaucoup d'argent. Je ne m'étonne plus de voir Lucien si grave, car madame de Sérisy ne lui donnera certes pas 1 000 000 pour épouser mademoiselle de Grandlieu. Il ne sait sans doute pas comment se tirer de cette position, reprit de Marsay. Oui, mais mademoiselle de Grandlieu l'adore, dit la comtesse de Montcornet. Et avec l'aide de la jeune personne, il aura peut-être de meilleures conditions. Que fera-t-il de sa sœur et de son beau-frère d'Angoulême? Demanda le chevalier d'Espard. Mais, répondit Rastignac, sa sœur est riche, et il l'appelle aujourd'hui, madame, Séchard de Marsac. S'il y a des difficultés, il est bien joli garçon, dit Bianchon, en se levant pour saluer Lucien. Bonjour, cher ami, dit Rastignac, en échangeant une chaleureuse poignée de main avec Lucien. De Marsay salua froidement, après avoir été salué le premier par Lucien. Avant le dîner, Desplein et Bianchon, qui tout en plaisantant le baron de Nucingen l'examinaient, reconnurent que sa maladie était entièrement morale. Mais personne n'en put deviner la cause, tant il paraissait impossible que ce profond politique de la bourse pût être amoureux. Quand Bianchon, en ne voyant plus que l'amour pour expliquer l'état pathologique du banquier, en dit 2 mots à Delphine de Nucingen, elle sourit, en femme qui depuis longtemps sait à quoi s'en tenir sur son mari. Après dîner cependant, quand on descendit au jardin, les intimes de la maison cernèrent le banquier et voulurent éclaircir ce cas extraordinaire en entendant Bianchon affirmer que Nucingen devait être amoureux. « Savez-vous, baron, lui dit de Marsay, que vous avez maigri considérablement, et l'on vous soupçonne de violer les lois de la nature financière. »« Jamais, dit le baron. « Mais si, répliqua de Marsay, on ose prétendre que vous êtes amoureux. »« C'est de frais, répondit piteusement Nucingen. « J'ai soupir après quelque chose d'inconnu. »« Vous êtes amoureux, vous ?» Vous êtes un fat, dit le chevalier d'Espard. Être amoureux, ça m'en hache. Je sais bien que rien n'est plus ridicule. Mais que voulez-vous? Ça y est. D'une femme du monde? Demanda Lucien. Mais, dit de Marsay, le baron ne peut maigrir ainsi que pour un amour sans espoir. Il a de quoi acheter toutes les femmes qui veulent ou qui peuvent se vendre. Je ne la connais point, répondit le baron. Et je puis vous le dire, puisque mon dame de Nucingen éteint le salon. Jusqu'ici, je n'ai point su ce qu'était l'amour. L'amour, je crois que c'est de m'écrire. Où l'avez-vous rencontrée, cette jeune innocente? Demanda Rastignac. En voiture, à minuit, au Poix de Vincennes. Son signalement, dit de Marsay, Enjabot de casse blanche, robe rosse, une bêche barbe blanche, voile blanc, une figure vraiment biblique, des yeux de feu, un teint orient. Vous rêviez, dit en souriant Lucien. C'est vrai, Je dormais comme un coffre plein, dit-il en se reprenant, car c'était en revenant de Tinègue à la campagne de mon ami. Était-elle seule ? Dit du Tillet en interrompant le loup Servier. Oui, dit le baron d'un ton dolent, sauf un étique derrière la voiture, est une femme de chambre. Lucien a l'air de la connaître, s'écria Rastignac en saisissant un sourire de l'amant d'Esther. Qui est-ce qui ne connaît pas les femmes capables d'aller à minuit à la rencontre de Nucingen ? Dit Lucien en pirouettant. Enfin, ce n'est pas une femme qui aille dans le monde, demanda le chevalier d'Espard, car le baron aurait reconnu les ducs. Je ne l'ai vue nulle part, répondit le baron, et voilà 40 jours que je la fais chercher par la police qui ne trouve pas. Il vaut mieux qu'elle vous coûte quelques centaines de mille de francs que de vous coûter la vie. Et à votre âge, une passion sans aliment est dangereuse, dit Desplein. On peut en mourir. Oui, répondit Nucingen à Desplein. Ce que je mange ne me nourrit point. L'air me semble mortel. Je fais au poids de Vincennes, voir la place où je l'ai fue. Et voilà ma fille. Je n'ai pas pu m'occuper du dernier emprunt. Je m'en suis rabordé à mes confrères qui ont eu pitié de moi. Biramilion, je voudrais connaître cette femme. J'y gagnerai, car je ne vais plus à la bourse. Demandez à Dutillet. Oui, répondit Dutillet, il a le dégoût des affaires. Il change, c'est signe de mort. Signe d'amour, reprit Nucingen. Pour moi, c'est une même chose. La naïveté de ce vieillard, qui n'était plus l'eau servier, et qui pour la première fois de sa vie apercevait quelque chose de plus sain et de plus sacré que l'or, émut cette compagnie de gens blasés. Les uns échangèrent des sourires, les autres regardèrent Nucingen en exprimant cette pensée dans leur physionomie. Un homme si fort en arrivait là. Puis chacun revint au salon en causant de cet événement. C'était en effet un événement de nature à produire la plus grande sensation. Madame de Nucingen se mit à rire quand Lucien lui découvrit le secret du banquier. Mais en entendant les moqueries de sa femme, le baron la prit par le bras et l'emmena dans l'embrasure d'une fenêtre. « Montame, dit-il à voix basse, ai-je jamais dit un mot de moquerie sur vos passions pour que Fifi moquiez des miennes ? Une bonne femme aiderait son mari à se tirer d'affaire sans se moquer de lui, comme vous le faites. » Après la description du vieux banquier, Lucien avait reconnu son Esther. Déjà très fâché d'avoir vu son sourire remarqué, il profita du moment de causerie générale qui a lieu pendant le service du café pour disparaître. « Qu'est donc devenu monsieur de Rubempré ? » dit la baronne de Nucingen. « Il est fidèle à sa devise. « Quid me continebit ?» répondit Rastignac. « Ce qui veut dire « Qui peut me retenir ?» ou « Je suis indomptable ?» « À votre choix, » reprit de Marsay. Au moment où monsieur le baron parlait de son inconnu, Lucien a laissé échapper un sourire qui me ferait croire qu'elle est de sa connaissance, dit Horace Bianchon, sans savoir le danger d'une observation si naturelle. « Bon, » se dit en lui-même le loup Servier. Semblable à tous les malades désespérés, il acceptait tout ce qui paraissait être un espoir, et il se promit de faire espionner Lucien par d'autres gens que ceux de Louchard, le plus habile garde du commerce de Paris, à qui depuis 15 jours il s'était adressé. Avant de se rendre chez Esther, Lucien devait aller à l'hôtel de Grandlieu, passer les 2 heures qui rendaient mademoiselle Clotilde Frédérique de Grandlieu, la fille la plus heureuse du faubourg Saint-Germain. La prudence qui caractérisait la conduite de ce jeune ambitieux lui conseilla d'instruire aussitôt Carlos Herrera de l'effet produit par le sourire que lui avait arraché le portrait d'Esther, tracé par le baron de Nucingen. L'amour du baron pour Esther et l'idée qu'il avait eue de mettre la police à la recherche de son inconnu étaient d'ailleurs des événements assez importants à communiquer à l'homme qui avait cherché sous la soutane l'asile que jadis les criminels trouvaient dans les églises. Et de la rue Saint-Lazare, où demeurait en ce temps le banquier, à la rue Saint-Dominique, où se trouve l'hôtel de Grandlieu, le chemin de Lucien le menait devant son chez-soi du quai Malaquais. Lucien trouva son terrible ami fumant son bréviaire, c'est-à-dire culottant une pipe avant de se coucher. Cet homme, plus étrange qu'étranger, avait fini par renoncer aux cigares espagnols, qu'il trouva trop doux. « Ceci devient sérieux, » répondit l'Espagnol, quand Lucien lui tout racontait. Le baron, qui se sert de louchard pour chercher la petite, aura bien l'esprit de mettre un record à tes trousses, et tout serait connu. Je n'ai pas trop de la nuit et de la matinée pour préparer les cartes de la partie que je vais jouer contre ce baron, à qui je dois démontrer avant tout l'impuissance de la police. Quand notre loup Servier aura perdu tout espoir de trouver sa brebis, je me charge de la lui vendre ce qu'elle vaut pour lui. « Vendre Esther !» s'écria Lucien, dont le premier mouvement était toujours excellent. « Tu oublies donc notre position ?» s'écria Carlos Herrera. Lucien baissa la tête. « Plus d'argent, reprit l'Espagnol, et 60 000 francs de dettes à payer. Si tu veux épouser Clotilde de Grandlieu, tu dois acheter une terre d'1 000 000 pour assurer le douaire de ce laideron. Eh bien, Esther est un gibier, après lequel je vais faire courir ce loup Servier, de manière à le dégraisser 1 000 000. Ça me regarde. Esther ne voudra jamais. Ça me regarde. Elle en mourra. Ça regarde les pompes funèbres. D'ailleurs, après, s'écria ce sauvage personnage, en arrêtant les élégies de Lucien par la manière dont il se posa. Combien y a-t-il de généraux morts à la fleur de l'âge pour l'empereur Napoléon ? Demanda-t-il à Lucien après un moment de silence. On trouve toujours des femmes. En 1821, pour toi, Coralie n'avait pas sa pareille. Esther ne s'en est pas moins rencontrée. Après cette fille viendra, sais-tu qui ? La femme inconnue. Voilà de toutes les femmes la plus belle, et tu la chercheras dans la capitale, où le gendre du duc de Grandlieu sera ministre et représentera le roi de France. Et puis dis donc, monsieur l'enfant, Esther en mourra-t-elle ? Enfin, le mari de mademoiselle de Grandlieu peut-il conserver Esther ? D'ailleurs, laisse-moi faire. Tu n'as pas l'ennui de penser à tout. Ça me regarde. Seulement, tu te passeras d'Esther pour 1 semaine ou 2, et tu n'en iras pas moins rue Thébou. Allons. Va roucouler sur ta planche de salut et joue bien ton rôle. Glisse à Clotilde la lettre incendiaire que tu as écrite ce matin et rapporte-m'en une un peu chaude. Elle se dédommage de ses privations par l'écriture, cette fille. Ça me va. Tu retrouveras Esther un peu triste, mais dis-lui d'obéir. Il s'agit de notre livret de vertu, de nos casaques d'honnêteté. Du paravent, derrière les grands, cachent toutes leurs infamies. Il s'agit de mon beau moi, de toi, qui ne dois jamais être soupçonné. Le hasard nous a mieux servi que ma pensée, qui depuis 2 mois travaillait dans le vide. » En jetant ces terribles phrases une à une, comme des coups de pistolet, Carlos Herrera s'habillait et se disposait à sortir. « Ta joie est visible, » s'écria Lucien. « Tu n'as jamais aimé la pauvre Esther, et tu vois arriver avec délice le moment de te débarrasser d'elle. Tu ne t'es jamais lassé de l'aimer, n'est-ce pas ? Eh bien, je ne me suis jamais lassé de l'exécrer. Mais n'ai-je pas agi toujours comme si j'étais attaché sincèrement à cette fille, moi qui, par Asie, tenais sa vie entre mes mains ? Quelques mauvais champignons dans un ragoût, et tout eût été dit. Mademoiselle Esther vit, cependant. Elle est heureuse. Sais-tu pourquoi ? Parce que tu l'aimes. Ne fais pas l'enfant. Voici 4 ans que nous attendons un hasard pour ou contre nous. Eh bien, il faut déployer plus que du talent pour éplucher le légume que nous jette aujourd'hui le sort. Il y a dans ce coup de roulette du bon et du mauvais, comme dans tout. Sais-tu à quoi je pensais au moment où tu es entré ? Non. À me rendre, ici comme à Barcelone, héritier d'une vieille dévote, à l'aide d'Asie. Un crime. Il ne me restait plus que cette ressource pour assurer ton bonheur. Les créanciers se remuent. Une fois poursuivi par des huissiers et chassé de l'hôtel de Grandlieu, que serais-tu devenu? L'échéance du diable serait arrivée. Carlos Herrera peignit par un geste le suicide d'un homme qui se jette à l'eau. Puis il arrêta sur Lucien un de ces regards fixes et pénétrants qui font entrer la volonté des gens forts dans l'âme des gens faibles. Ce regard fascinateur, qui eut pour effet de détendre toute résistance, annonçait entre Lucien et son conseil non seulement des secrets de vie et de mort, mais encore des sentiments aussi supérieurs aux sentiments ordinaires que cet homme l'était à la bassesse de sa position. Contrainte à vivre en dehors du monde, où la loi lui interdisait à jamais de rentrer, épuisée par le vice et par de furieuses, par de terribles résistances, mais douée d'une force d'âme qui le rongeait, ce personnage ignoble et grand, obscur et célèbre, dévoré surtout d'une fièvre de vie, revivait dans le corps élégant de Lucien, dont l'âme était devenue la sienne. Il se faisait représenter dans la vie sociale par ce poète, auquel il donnait sa consistance et sa volonté de faire. Pour lui, Lucien était plus qu'un fils, plus qu'une femme aimée, plus qu'une famille, plus que sa vie. Il était sa vengeance. Aussi, comme les âmes fortes tiennent plus à un sentiment qu'à l'existence, se l'était-il attaché par des liens indissolubles. Après avoir acheté la vie de Lucien, au moment où ce poète au désespoir faisait un pas vers le suicide, il lui avait proposé l'un de ces pactes infernaux, qui ne se voient que dans les romans, mais dont la possibilité terrible a souvent été démontrée aux assises par de célèbres drames judiciaires. En prodiguant à Lucien toutes les joies de la vie parisienne, en lui prouvant qu'il pouvait se créer encore un bel avenir, il en avait fait sa chose. Aucun sacrifice ne coûtait d'ailleurs à cet homme étrange dès qu'il s'agissait de son second lui-même. Au milieu de sa force, il était si faible contre les fantaisies de sa créature qu'il avait fini par lui confier ses secrets. Peut-être fut-ce un lien de plus entre eux que cette complicité purement morale. Depuis le jour où la torpille fut enlevée, Lucien savait sur quelle horrible base reposait son bonheur. Cette soutane de prêtre espagnol cachait Jacques Collin, une des célébrités du bagne, et qui 10 ans auparavant vivait sous le nom bourgeois de Vautrin dans la maison Vauquer, où Rastignac et Bianchon se trouvèrent en pension. Jacques Collin, dit « trompe-la-mort », évadé presque aussitôt de Rochefort qu'il y fut réintégré, mit à profit l'exemple donné par le fameux comte de Sainte-Hélène, mais en modifiant tout ce que l'action hardie de Coignard eut de vicieux. Se substituer à un honnête homme et continuer la vie du forçat est une proposition dont les deux termes sont trop contradictoires pour qu'il ne s'en dégage pas un dénouement funeste, à Paris surtout. Car en s'implantant dans une famille, un condamné décuple les dangers de cette substitution. Pour être à l'abri de toute recherche, ne faut-il pas d'ailleurs se mettre plus haut que ne sont situés les intérêts ordinaires de la vie? Un homme du monde est soumis à des hasards qui pèsent rarement sur les gens sans contact avec le monde. Aussi, la soutane est-elle le plus sûr des déguisements, quand on peut le compléter par une vie exemplaire, solitaire et sans action. Donc, je serai prêtre, se dit ce mort civil, qui voulait absolument revivre sous une forme sociale et satisfaire des passions aussi étranges que lui. La guerre civile que la Constitution de 1812 alluma en Espagne, où s'était rendu cet homme d'énergie, lui fournit les moyens de tuer secrètement le véritable Carlos Herrera dans une embuscade. Bâtard d'un grand seigneur et abandonné depuis longtemps par son père, ignorant à quelle femme il devait le jour, ce prêtre était chargé d'une mission politique en France par le roi Ferdinand VII, à qui un évêque l'avait proposé. L'évêque, le seul homme qui s'intéressât à Carlos Herrera, mourut pendant le voyage que cet enfant perdu de l'Église faisait de Cadix à Madrid et de Madrid en France. Heureux d'avoir rencontré cette individualité si désirée, et dans les conditions où il la voulait, Jacques Collin se fit des blessures au dos pour effacer les fatales lettres et changea son visage à l'aide de réactifs chimiques. En se métamorphosant ainsi devant le cadavre du prêtre avant de l'anéantir, il put se donner quelques ressemblances avec son sosie. Pour achever cette transmutation, presque aussi merveilleuse que celle dont il est question dans ce conte arabe, où le derviche a conquis le pouvoir d'entrer, lui vieux, dans un jeune corps, par des paroles magiques. Le forçat qui parlait espagnol apprit autant de latin qu'un prêtre andalou devait en savoir. Banquier des Trois Bagnes, Collin était riche des dépôts confiés à sa probité connue, et forcé d'ailleurs. Entre de tels associés, une erreur se solde à coups de poignard. À ses fonds, il joignit l'argent donné par l'évêque à Carlos Herrera. Avant de quitter l'Espagne, il put s'emparer du trésor d'une dévote de Barcelone, à laquelle il donna l'absolution, en lui promettant d'opérer la restitution des sommes provenues d'un assassinat commis par elle, et d'où provenait la fortune de sa pénitente. Devenu prêtre, chargé d'une mission secrète qui devait lui valoir les plus puissantes recommandations à Paris, Jacques Collin, résolu à ne rien faire pour compromettre le caractère dont il s'était revêtu, s'abandonnait aux chances de sa nouvelle existence quand il rencontra Lucien sur la route d'Angoulême à Paris. Ce garçon parut au faux abbé devoir être un merveilleux instrument de pouvoir. Il le sauva du suicide en lui disant « Donnez-vous à un homme de Dieu comme on se donne au diable et vous aurez toutes les chances d'une nouvelle destinée. Vous vivrez comme un rêve et le pire réveil sera la mort que vous vouliez vous donner. » L'alliance de ces deux êtres, qui n'en devait faire qu'un seul, reposa sur ce raisonnement plein de force que Carlos Herrera cimenta d'ailleurs par une complicité savamment amenée. Doué du génie de la corruption, il détruisit l'honnêteté de Lucien en le plongeant dans des nécessités cruelles et en l'en tirant par des consentements tacites à des actions mauvaises ou infâmes qui le laissaient toujours pur, loyal, noble aux yeux du monde. Lucien était la splendeur sociale à l'ombre de laquelle voulait vivre le faussaire. Je suis l'auteur, tu seras le drame. Si tu ne réussis pas, c'est moi qui serai sifflé, lui dit-il le jour où il lui avoua le sacrilège de son déguisement. Carlos alla prudemment d'aveu en aveu, mesurant l'infamie des confidences à la force de ses progrès et aux besoins de Lucien. Aussi, Trompe-la-Mort ne livra-t-il son dernier secret qu'au moment où l'habitude des jouissances parisiennes, les succès, la vanité satisfaite, lui avaient asservi le corps et l'âme de ce poète si faible. Là où jadis Rastignac, tenté par ce démon, avait résisté, Lucien succomba, mieux manœuvré, plus savamment compromis, vaincu surtout par le bonheur d'avoir conquis une éminente position. Le mal, dont la configuration poétique s'appelle le diable, usa envers cet homme à moitié femme de ses plus attachantes séductions et lui demanda peu d'abord en lui donnant beaucoup. Le grand argument de Carlos fut cet éternel secret promis par Tartuffe à Elmire. L'épreuve réitérée d'un dévouement absolu, semblable à celui de Séide pour Mahomet, achevèrent cette œuvre horrible de la conquête de Lucien par Jacques Collin. En ce moment, non seulement Esther et Lucien avaient dévoré tous les fonds confiés à la probité du banquier des Bagnes, qui s'exposait pour eux à de terribles redditions de comptes, mais encore le dandy, le faussaire et la courtisane avaient des dettes. Au moment où Lucien allait réussir, le plus petit caillou sous le pied d'un de ces trois êtres pouvait donc faire crouler le fantastique édifice d'une fortune si audacieusement bâtie. Au bal de l'Opéra, Rastignac avait reconnu le vautrin de la maison Vauquer, mais il se savait mort en cas d'indiscrétion. Aussi l'amant de Madame de Nucingen échangeait-il avec Lucien des regards où la peur se cachait de part et d'autre sous des semblants d'amitié. Dans le moment du danger, Rastignac aurait évidemment fourni, avec le plus grand plaisir, la voiture qu'eût menée Trompe-la-Mort à l'échafaud. Chacun doit maintenant deviner de quelle sombre joie Carlos fut saisi en apprenant l'amour du baron de Nucingen et en saisissant dans une seule pensée tout le parti qu'un homme de sa trempe devait tirer de la pauvre Esther. « Va, » dit-il à Lucien, « le diable protège son aumônier. Tu fumes sur une poudrière. « Inque de Perignes, » répondit Carlos en souriant, « c'est mon métier. » La maison de Grandlieu s'est partagée en deux branches vers le milieu du dernier siècle. D'abord, la maison ducale condamnée à finir, puisque le duc actuel n'a eu que des filles, puis les vicomtes de Grandlieu, qui doivent hériter du titre et des armes de leur branche aînée. La branche ducale, porte de gueule, à trois douloirs, ou haches d'armes d'or mises en face, avec le fameux « caveo non timeo » pour devise, qui est toute l'histoire de cette maison. L'écusson des vicomtes est écartelé de Navarreins, qui est de gueule, à la face crénelée d'or, et timbré du casque de chevalier, avec « grand fait, grand lieu » pour devise. La vicomtesse actuelle, veuve depuis 1813, a un fils et une fille. Quoique revenue quasi ruinée de l'émigration, elle a retrouvé, par suite du dévouement d'un avoué de Derville, une fortune assez considérable. Rentrée en 1804, le duc et la duchesse de Grandlieu furent l'objet des coquetteries de l'empereur. Aussi Napoléon, qui les vit à sa cour, rendit-il tout ce qui se trouvait à la maison de Grandlieu dans le domaine. Environ 40 000 livres de rente. De tous les grands seigneurs du faubourg Saint-Germain, qui se laissèrent séduire par Napoléon, le duc et la duchesse, une ajuda de la branche aînée, alliée aux Bragances, furent les seuls qui ne renièrent pas l'empereur, ni ses bienfaits. Louis XVIII eut égard à cette fidélité, lorsque le faubourg Saint-Germain en fit un crime au grand lieu. Mais peut-être en ceci, Louis XVIII voulait-il uniquement taquiner monsieur. On regardait comme probable le mariage du jeune vicomte de Grandlieu avec Marie Athénaïs, la dernière fille du duc, alors âgée de 9 ans. Sabine, l'avant-dernière, épousa le baron de Guénic. Après la révolution de juillet, Joséphine, la troisième, devint madame d'Ajuda Pinto, quand le marquis perdit sa première femme, mademoiselle de Rochefide, alias Rochegude. L'aîné avait pris le voile en 1822. La seconde, mademoiselle Clotilde Frédéric, en ce moment à l'âge de 27 ans, était profondément éprise de Lucien de Rubempré. Il ne faut pas demander si l'hôtel de Grandlieu, l'un des plus beaux de la rue Saint-Dominique, exerçait 1000 prestiges sur l'esprit de Lucien. Toutes les fois que la porte immense tournait sur ses gonds pour laisser entrer son cabriolet, il éprouvait cette satisfaction de vanité dont a parlé Mirabeau. Quoique mon père ait été un simple pharmacien à Loumont, j'entre pourtant là. Telle était sa pensée. Aussi eut-il commis bien d'autres crimes que ceux de son alliance avec un faussaire, pour conserver le droit de monter les quelques marches du perron, pour s'entendre annoncer « Monsieur de Rubempré » dans le grand salon à la Louis XIV, fait du temps de Louis XIV, sur le modèle de ceux de Versailles, où se trouvait cette société d'élite, la crème de Paris, nommée alors le Petit Château. La noble portugaise, une des femmes qui aimait le moins à sortir de chez elle, était la plupart du temps entourée de ses voisins les Chaulieu, les Navarreins, les Lenoncourt. Souvent la jolie baronne de Macumer, née Chaulieu, la duchesse de Maufrigneuse, madame d'Espard, madame de Caen, mademoiselle des Touches, alliée aux Grandlieu qui sont de Bretagne, se trouvait en visite, allant au bal ou revenant de l'opéra. Le vicomte de Grandlieu, le duc de Rhétoré, le marquis de Chaulieu, qui devait être un jour duc de Lenoncourt-Chaulieu. Sa femme, Madeleine de Mortsauf, petite-fille du duc de Lenoncourt. Le marquis d'Ajuda Pinto, le prince de Blamont-Chevry, le marquis de Beauséant, le vidame de Pamiers, les Vandenesses, le vieux prince de Cadignan et son fils, le duc de Maufrigneuse, étaient les habitués de ce salon grandiose où l'on respirait l'air de la cour, où les manières, le ton, l'esprit s'harmonisait à la noblesse des maîtres, dont la grande tenue aristocratique avait fini par faire oublier leur servage napoléonien. La vieille duchesse d'Uxelles, la mère de la duchesse de Maufrigneuse, était l'oracle de ce salon, où Madame de Sérisy n'avait jamais pu se faire admettre, quoique née de Ronquerolles. Amenée par Madame de Maufrigneuse, qui avait fait agir sa mère en faveur de Lucien, de qui elle avait été folle pendant 2 ans, ce séduisant poète s'y maintenait, grâce à l'influence de la grande aumônerie de France et à l'aide de l'archevêque de Paris. Il ne fut admis toutefois qu'après avoir obtenu l'ordonnance qui lui rendit le nom et les armes de la maison de Rubempré. Le duc de Rhétoré, le chevalier d'Espard, quelques autres encore, jaloux de Lucien, indisposaient périodiquement contre lui le duc de Grandlieu, en lui racontant des anecdotes prises aux antécédents de Lucien. Mais la dévote duchesse, entourée déjà par les sommités de l'Église, et Clotilde de Grandlieu le soutinrent. Lucien expliqua d'ailleurs ses inimitiés par son aventure avec la cousine de Madame d'Espard, Madame de Bargeton, devenue comtesse Châtelet. Puis en sentant la nécessité de se faire adopter par une famille si puissante et poussée par son conseil intime à séduire Clotilde, Lucien eut le courage des parvenus. Il vint là 5 jours sur les 7 de la semaine. Il avala gracieusement les couleuvres de l'envie. Il soutint les regards impertinents. Il répondit spirituellement aux railleries. Son assiduité, le charme de ses manières, sa complaisance, finirent par neutraliser les scrupules et par amoindrir les obstacles. Toujours au mieux chez la duchesse de Maufrigneuse, dont les lettres brûlantes, écrites pendant le cours de sa passion, étaient gardées par Carlos Herrera, l'idole de Madame de Sérisy, bien vue chez Mademoiselle des Touches, Lucien, content d'être admis dans ses 3 maisons, apprit de son espagnol à mettre la plus grande réserve dans ses relations. « On ne peut pas se dévouer à plusieurs maisons à la fois, » lui disait son conseiller intime. « Qui va partout ne trouve d'intérêt vif nulle part. Les grands ne protègent que ceux qui rivalisent avec leurs meubles, ceux qu'ils voient tous les jours et qui savent leur devenir quelque chose de nécessaire, comme le divan sur lequel on s'assied. » Habitué à regarder le salon des grands lieux comme son champ de bataille, Lucien réservait son esprit, ses bons mots, les nouvelles et ses grâces de courtisan pour le temps qu'il y passait le soir. Insinuant, caressant, prévenu par Clotilde des écueils à éviter, il flattait les petites passions de Monsieur de Grandlieu. Après avoir commencé par envier le bonheur de la duchesse de Maufrigneuse, Clotilde devint éperdument amoureuse de Lucien. En apercevant tous les avantages d'une pareille alliance, Lucien joua son rôle d'amoureux comme l'eût joué Armand, le dernier jeune premier de la Comédie-Française. Il écrivait à Clotilde des lettres qui, certes, étaient des chefs-d'œuvre littéraires du premier ordre. Et Clotilde y répondait en luttant de génie dans l'expression de cet amour furieux sur le papier, car elle ne pouvait aimer que de cette façon. Lucien allait à la messe à Saint-Thomas d'Aquin tous les dimanches. Il se donnait pour fervent catholique. Il se livrait à des prédications monarchiques et religieuses qui faisaient merveille. Il écrivait d'ailleurs, dans les journaux dévoués à la congrégation, des articles excessivement remarquables, sans vouloir en recevoir aucun prix, sans y mettre d'autres signatures qu'un L. Il fit des brochures politiques, demandées ou par le roi Charles X, ou par la grande aumônerie, sans exiger la moindre récompense. Le roi, disait-il, a déjà tant fait pour moi que je lui dois mon sang. Aussi, depuis quelques jours, était-il question d'attacher Lucien au cabinet du Premier ministre en qualité de secrétaire particulier. Mais Madame d'Espard mit tant de gens en campagne contre Lucien que le maître Jacques de Charles X hésitait à prendre cette résolution. Non seulement la position de Lucien n'était pas assez nette, et ses mots, de quoi vit-il, que chacun avait sur les lèvres, à mesure qu'il s'élevait, demandaient une réponse. Mais encore la curiosité bienveillante, comme la curiosité malicieuse, allait d'investigations en investigations, et trouvait plus d'un défaut à la cuirasse de cet ambitieux. Clotilde de Grandlieu, servait à son père et à sa mère d'espions innocents. Quelques jours auparavant, elle avait pris Lucien pour causer dans l'embrasure d'une fenêtre et l'instruire des objections de la famille. « Ayez une terre d'un million, et vous aurez ma main. Telle a été la réponse de ma mère, » avait dit Clotilde. « Ils te demanderont plus tard d'où provient ton argent, » avait dit Carlos à Lucien, quand Lucien lui reporta ce prétendu dernier mot. « Mon beau-frère doit avoir fait fortune, » avait fait observer Lucien. « Nous aurons en lui un éditeur responsable. »« Il ne manque donc plus que le million, » s'était écrié Carlos. « J'y songerai. » Pour bien expliquer la position de Lucien à l'hôtel de Grandlieu, jamais il n'y avait dîné. Ni Clotilde, ni la duchesse d'Uxelles, ni madame de Maufrigneuse, qui resta toujours excellente pour Lucien, ne purent obtenir du vieux duc cette faveur, dont le gentilhomme conservait de défiance sur celui qu'il appelait le sire de Rubempré. Cette nuance, aperçue par toute la société de ce salon, causait de vives blessures à l'amour-propre de Lucien, qui s'y sentait seulement toléré. Le monde a le droit d'être exigeant, il est si souvent trompé. Faire figure à Paris sans avoir une fortune connue, sans une industrie avouée, est une position que nul artifice ne peut rendre pendant longtemps soutenable. Aussi Lucien, en s'élevant, donnait-il une force excessive à cette objection. De quoi vit-il ? Il avait été forcé de dire chez madame de Sérisy, à laquelle il devait l'appui du procureur général Granville et d'un ministre d'État, le comte Octave de Beauvau, président à une cour souveraine, « Je m'endette horriblement. » En entrant dans la cour de l'hôtel, où se trouvait la légitimation de ses vanités, il se disait avec amertume, en pensant à la délibération de Trompe-la-Mort, « J'entends tout craquer sous mes pieds. » Il aimait Esther, et il voulait mademoiselle de Grandlieu pour femme. Étrange situation. Il fallait vendre l'une pour avoir l'autre. Un seul homme pouvait faire ce trafic sans que l'honneur de Lucien en souffrît. Cet homme était le faux espagnol. Ne devait-il pas être aussi discret l'un que l'autre, l'un envers l'autre? On n'a pas dans la vie deux pactes de ce genre, où chacun est tour à tour dominateur et dominé. Lucien chassa les nuages qui obscurcissait son front. Il entra gai, radieux, dans les salons de l'hôtel de Grandlieu. En ce moment, les fenêtres étaient ouvertes. Les senteurs du jardin parfumaient le salon. La jardinière qui en occupait le milieu offrait au regard sa pyramide de fleurs. La duchesse, assise dans un coin sur un sofa, causait avec la duchesse de Chaulieu. Plusieurs femmes composaient un groupe remarquable par diverses attitudes, empreintes de différentes expressions que chacune d'elles donnait à une douleur jouée. Dans le monde, personne ne s'intéresse à un malheur ni à une souffrance, tout y est parole. Les hommes se promenaient dans le salon ou dans le jardin. Clotilde et Joséphine s'occupaient autour de la table à thé. Le vidame de Pamiers, le duc de Grandlieu, le marquis d'Ajuda Pinto, le duc de Maufrigneuse faisaient leur whisk dans un coin. Quand Lucien fut annoncé, il traversa le salon et alla saluer la duchesse, à laquelle il demanda raison de l'affliction peinte sur son visage. Madame de Chaulieu vient de recevoir une affreuse nouvelle. Son gendre, le baron de Macumer, l'ex-duc de Soria, vient de mourir. Le jeune duc de Soria et sa femme, qui étaient allés à Chantepleurs y soigner leur frère, ont écrit ce triste événement. Louise est dans un état navrant. Une femme n'est pas deux fois aimée dans sa vie comme Louise l'était par son mari, dit Madeleine de Mortsauf. Ce sera une riche veuve, reprit la vieille duchesse d'Uxelles, en regardant Lucien, dont le visage garda son impassibilité. Pauvre Louise, dit madame d'Espard, je la comprends et je la plains. La marquise d'Espard eut l'air songeur d'une femme pleine d'âme et de cœur. Quoique Sabine de Grandlieu n'eût que 10 ans, elle leva sur sa mère un œil intelligent, dont le regard presque moqueur fut réprimé par un coup d'œil de sa mère. C'est ce qui s'appelle bien élever ses enfants. « Si ma fille résiste à ce coup-là, dit madame de Chaulieu, de l'air le plus maternel. Son avenir m'inquiétera. Louise est très romanesque. Je ne sais pas, dit la vieille duchesse d'Uxelles, de qui nos filles ont pris ce caractère-là. Il est difficile, dit un vieux cardinal, de concilier aujourd'hui le cœur et les convenances. Lucien, qui n'avait pas un mot à dire, alla vers la table à thé, faire ses compliments à mademoiselle de Grandlieu. Quand le poète fut à quelques pas du groupe de femmes, la marquise d'Espard se pencha pour pouvoir parler à l'oreille de la duchesse de Grandlieu. « Vous croyez donc que ce garçon-là aime beaucoup votre chère Clotilde ?» lui dit-elle. La perfidie de cette interrogation ne peut être comprise qu'après l'esquisse de Clotilde. Cette jeune personne de 27 ans était alors debout. Cette attitude permettait au regard moqueur de la marquise d'Espard d'embrasser la taille sèche et mince de Clotilde, qui ressemblait parfaitement à une asperge. Le corsage de la pauvre fille était si plat qu'il n'admettait pas les ressources coloniales de ce que les modistes appellent les fichus menteurs. Aussi Clotilde, qui se savait de suffisants avantages dans son nom, loin de prendre la peine de déguiser ce défaut, le faisait-elle héroïquement ressortir. En se serrant dans ses robes, elle obtenait l'effet du dessin roi des nettes que les sculpteurs du Moyen-Âge ont cherché dans leurs statuettes, dont le profil tranche sur le fond des niches où ils les ont mises dans les cathédrales. Clotilde avait 5 pieds 4 pouces. S'il est permis de se servir d'une expression familière qui du moins a le mérite de bien se faire comprendre, elle était tout jambes. Ce défaut de proportion donnait à son buste quelque chose de difforme. Brune de teint, les cheveux noirs et durs, les sourcils très fournis, les yeux ardents et encadrés dans des orbites déjà charbonnées, la figure arquée comme un premier quartier de lune et dominée par un front proéminent, elle offrait la caricature de sa mère, l'une des plus belles femmes du Portugal. La nature se plaît à ces jeux-là. On voit souvent dans les familles une sœur d'une beauté surprenante et dont les traits offrent, chez le frère, une laideur achevée, quoique tous deux se ressemblent. Clotilde avait sur sa bouche, excessivement rentrée, une expression de dédain stéréotypé. Aussi ses lèvres dénonçaient-elles plus que tout autre trait de son visage les secrets mouvements de son cœur, car l'affection leur imprimait une expression charmante, et d'autant plus remarquable que ses joues trop brunes pour rougir, que ses yeux noirs, toujours durs, ne disaient jamais rien. Malgré tant de désavantages, malgré sa prestance de planche, elle tenait de son éducation et de sa race un air de grandeur, une contenance fière, enfin, tout ce qu'on a nommé si justement le « je ne sais quoi », peut-être dû à la franchise de son costume, et qui signalait en elle une fille de bonne maison. Elle tirait parti de ses cheveux, dont la force, le nombre et la longueur pouvaient passer pour une beauté. Sa voix qu'elle avait cultivée jetait des charmes. Elle chantait à ravir. Clotilde était bien la jeune personne dont on dit « elle a de beaux yeux » ou « elle a un charmant caractère ». À quelqu'un qui lui disait à l'anglaise « votre grâce », elle répondit « appelez-moi votre minceur ». « Pourquoi n'aimerait-on pas ma pauvre Clotilde ?» répondit la duchesse à la marquise. « Savez-vous ce qu'elle me disait hier ? Si je suis aimée par ambition, je me charge de me faire aimer pour moi-même. Elle est spirituelle et ambitieuse, et il y a des hommes à qui ces deux qualités plaisent. Quant à lui, ma chère, il est beau comme un rêve, et s'il peut racheter la terre de Rubempré, le roi lui rendra, par égard pour nous, le titre de marquis. Après tout, sa mère est la dernière Rubempré. Pauvre garçon, où prendra-t-il 1 million ? Dit la marquise. Ceci n'est pas notre affaire, reprit la duchesse, mais à coup sûr, il est incapable de le voler. Et d'ailleurs, nous n'honorions pas Clotilde à un intrigant, ni à un malhonnête homme, fût-il beau, fût-il poète, et jeune comme monsieur de Rubempré. Vous venez tard, dit Clotilde, en souriant avec une grâce infinie à Lucien. Oui, j'ai dîné en ville. « Vous allez beaucoup dans le monde depuis quelques jours, » dit-elle en cachant sa jalousie et ses inquiétudes sous un sourire. « Dans le monde ?» reprit Lucien. « Non, j'ai seulement par le plus grand des hasards dîné toute la semaine chez des banquiers. Aujourd'hui chez Nucingen, hier chez Dutillet et avant-hier chez les Keller. On voit que Lucien avait bien su prendre le ton de spirituelle impertinence des grands seigneurs. « Vous avez bien des ennemis, » lui dit Clotilde, en lui présentant, et avec quelle grâce, une tasse de thé. « On est venu dire à mon père que vous jouissiez de 60 000 francs de dette, que d'ici à quelque temps, vous auriez Sainte-Pélagie pour château de plaisance. Et si vous saviez ce que toutes ces calomnies me valent, tout cela tombe sur moi. Je ne vous parle pas de ce que je souffre. Mon père a des regards qui me crucifient. Mais de ce que vous devez souffrir, si cela se trouvait le moins du monde, vrai. Ne vous préoccupez point de ces niaiseries. Aimez-moi comme je vous aime. Et faites-moi crédit de quelques mois, répondit Lucien en replaçant sa tasse vide sur le plateau d'argent ciselé. Ne vous montrez pas à mon père. Il vous dirait quelque impertinence, et comme vous ne le souffririez pas, nous serions perdus. Cette méchante marquise d'Espard lui a dit que votre mère avait gardé les femmes en couche et que votre sœur était repasseuse. Nous avons été dans la plus profonde misère, répondit Lucien, à qui des larmes vinrent aux yeux. Ceci n'est pas de la calomnie, mais de la bonne médisance. Aujourd'hui, ma sœur est plus que millionnaire. Et ma mère est morte depuis 2 ans. On avait réservé ces renseignements pour le moment où je serais sur le point de réussir ici. Mais qu'avez-vous fait à Madame d'Espard? J'ai eu l'imprudence de raconter plaisamment chez Madame de Sérisy, devant messieurs de Beauvau et de Granville, l'histoire du procès qu'elle faisait pour obtenir l'interdiction de son mari, le marquis d'Espard, et qui m'avait été confiée par Bianchon. L'opinion de monsieur de Granville, appuyé par Beauvan et Sérisy, a fait changer celle du garde des Sceaux. L'un et l'autre, ils ont reculé devant la gazette des tribunaux, devant le scandale, et la marquise a eu sur les doigts, dans les motifs du jugement, qui a mis fin à cette horrible affaire. Si monsieur de Sérisy a commis une indiscrétion qui m'a fait de la marquise une ennemie mortelle, j'ai gagné sa protection, celle du procureur général et du comte Octave de Beauvan, à qui Madame de Sérisy a dit le péril où il m'avait mis en laissant deviner la source d'où venaient leurs renseignements. Monsieur le marquis d'Espard a eu la maladresse de me faire une visite en me regardant comme la cause du gain de cet infâme procès. « Je vais nous délivrer de Madame d'Espard, » dit Clotilde. « Et comment ? » s'écria Lucien. « Ma mère invitera les petits d'Espard, qui sont charmants et déjà bien grands. Le père et ses 2 fils chanteront ici vos louanges. Nous sommes bien sûrs de ne jamais voir leur mère. Oh, Clotilde, vous êtes adorable. Et si je ne vous aimais pas pour vous-même, je vous aimerais pour votre esprit. Ce n'est pas de l'esprit, dit-elle en mettant tout son amour sur ses lèvres. Adieu. Soyez quelques jours sans venir. Quand vous me verrez à Saint-Thomas d'Aquin avec une écharpe rose, mon père aura changé d'humeur. Vous avez une réponse collée au dos du fauteuil sur lequel vous êtes. Elle vous consolera peut-être de ne pas nous voir. Mettez la lettre que vous m'apportez dans mon mouchoir. » Cette jeune personne avait évidemment plus de 27 ans. Lucien prit un fiacre à la rue de la Planche, le quitta sur les boulevards, en prit un autre à la Madeleine et lui recommanda de demander la porte rue Thébout. À 11 heures, en entrant chez Esther, il la trouva tout en pleurs, mais mise comme elle se mettait pour lui faire fête. Elle attendait son Lucien, couché sur un divan de satin blanc, broché de fleurs jaunes, vêtu d'un délicieux peignoir en mousseline des Indes, à nœuds de ruban couleur cerise, sans corset, les cheveux simplement attachés sur sa tête, les pieds dans de jolies pantoufles de velours, doublées de satin cerise, toutes les bougies allumées et le houx caprès. Mais elle n'avait pas fumé le sien, qui restait sans feu devant elle, comme un indice de sa situation. En entendant ouvrir les portes, elle essuya ses larmes, bondit comme une gazelle, et enveloppa Lucien de ses bras comme un tissu, qui, saisi par le vent, s'entortillerait à un arbre. « Séparés, dit-elle, est-il vrai ?»«
Bah, pour quelques jours, répondit Lucien. »
Esther lâcha Lucien et retomba sur le divan comme morte. En ces situations, la plupart des femmes babillent comme des perroquets. Ah, comme elles vous aiment! Après 5 ans, elles sont au lendemain de leur premier jour de bonheur. Elles ne peuvent pas vous quitter. Elles sont sublimes d'indignation, de désespoir, d'amour, de colère, de regret, de terreur, de chagrin, de pressentiment. Enfin, elles sont belles comme une scène de Shakespeare. Mais sachez-le bien, ces femmes-là n'aiment pas. Quand elles sont tout ce qu'elles disent être, quand enfin elles aiment véritablement, elles font comme fit Esther, comme font les enfants, comme fait le véritable amour. Esther ne disait pas une parole. Elle gisait la face dans les coussins et pleurait à chaudes larmes. Lucien, lui, s'efforçait de soulever Esther et lui parler. « Mes enfants, nous ne sommes pas séparés. Comment, après bientôt 4 ans de bonheur, voilà ta manière de prendre une absence. Et qu'ai-je donc fait à toutes ces filles-là ? » se dit-il, en se souvenant d'avoir été aimé ainsi par Coralie. « Ah, monsieur, vous êtes bien beau, dit Europe. Les sens ont leur beau idéal. Quant à ce beau si séduisant, se joignent la douceur de caractère, la poésie qui distinguait Lucien. On peut concevoir la folle passion de ces créatures, éminemment sensibles aux dons naturels extérieurs, et si naïves dans leur admiration. Esther sanglotait doucement et restait dans une pose où se trahissait une extrême douleur. « Mes petites bêtes, dit Lucien, ne t'a-t-on pas dit qu'il s'agissait de ma vie ?» À ce mot, dit exprès par Lucien, Esther se dressa comme une bête fauve. Ses cheveux dénoués entourèrent sa sublime figure comme d'un feuillage. Elle regarda Lucien d'un œil fixe. « De ta vie » s'écria-t-elle, en levant les bras et les laissant retomber par un geste qui n'appartient qu'aux filles en danger. Mais c'est vrai, le mot de ce sauvage parle de choses graves. Elle tira de sa ceinture un méchant papier, mais elle vit Europe et lui dit « Laisse-nous, ma fille. » Quand Europe eut fermé la porte, « Tiens, voici ce qu'il m'écrit, » reprit-elle, en tendant à Lucien une lettre que Carlos venait d'envoyer et que Lucien lut à haute voix. « Vous partirez demain, à 5 heures du matin. On vous conduira chez un garde, au fond de la forêt de Saint-Germain. Vous y occuperez une chambre au premier étage. Ne sortez pas de cette chambre jusqu'à ce que je le permette. Vous n'y manquerez de rien. Le garde et sa femme sont sûrs. N'écrivez pas à Lucien. Ne vous mettez pas à la fenêtre pendant le jour. Mais vous pouvez vous promener pendant la nuit sous la conduite du garde, si vous avez envie de marcher. Tenez les stores baissés pendant la route. Il s'agit de la vie de Lucien. Lucien viendra ce soir vous dire adieu. Brûlez ceci devant lui. » Lucien brûla sur le champ ce billet à la flamme d'une bougie. « Écoute, mon Lucien, dit Esther, après avoir entendu la lecture de ce billet, comme un criminel écoute celle de son arrêt de mort. Je ne te dirai pas que je t'aime, ce serait une bêtise. Voici 5 ans bientôt qu'il me semble aussi naturel de t'aimer que de respirer, de vivre. Le premier jour où mon bonheur a commencé, sous la protection de cet être inexplicable qui m'a mise ici, comme on met une petite bête curieuse dans une cage, j'ai su que tu devais te marier. Le mariage est un élément nécessaire de ta destinée, et Dieu me garde d'arrêter les développements de ta fortune. Ce mariage est ma mort, mais je ne t'ennuierai point. Je ne ferai pas comme les grisettes qui se tuent à l'aide d'un réchaud de charbon. J'en ai eu assez d'une fois, et 2 fois ça écœure, comme dit Mariette. Non. Je m'en irai bien loin, hors de France. Asie a des secrets de son pays. Elle m'a promis de m'apprendre à mourir tranquillement. On se pique. Paf, tout est fini. Je ne demande qu'une seule chose, mon ange adoré.
c'est de ne pas être trompée. J'ai mon compte de la vie. J'ai eu, depuis le jour où je t'ai vue, en 1824, jusqu'à aujourd'hui, plus de bonheur qu'il n'en tient dans 10 existences de femmes heureuses. Ainsi, prends-moi pour ce que je suis, une femme aussi forte que faible. Dis-moi, je me marie. Je ne te demande plus qu'un adieu bien tendre, et tu n'entendras plus jamais parler de moi. Il fut un moment de silence après cette déclaration, dont la sincérité ne peut se comparer qu'à la naïveté des gestes et de l'accent. S'agit-il de ton mariage ? Dit-elle en plongeant un de ses regards, fascinateurs et brillants, comme la lame d'un poignard, dans les yeux bleus de Lucien. Voici 18 mois que nous travaillons à mon mariage, et il n'est pas encore conclu, répondit Lucien. Je ne sais pas quand il pourra se conclure, mais il ne s'agit pas de cela, ma chère petite. Il s'agit de l'abbé, de moi, de toi. Nous sommes sérieusement menacés. Nucingen t'a vu. Oui, dit-elle, à Vincennes. Il m'a donc reconnue. Non, répondit Lucien, mais il est amoureux de toi à en perdre sa caisse. Après dîner, quand il t'a dépeinte en parlant de votre rencontre, j'ai laissé échapper un sourire involontaire, imprudent, car je suis au milieu du monde, comme le sauvage au milieu des pièges d'une tribu ennemie. Carlos, qui m'évite la peine de penser, trouve cette situation dangereuse. Il se charge de rouer Nucingen, si Nucingen s'avise de nous espionner. Et le baron en est bien capable. Il m'a parlé de l'impuissance de la police. Tu as allumé un incendie dans une vieille cheminée pleine de suie. Et que veut faire ton espagnol ? Dit Esther tout doucement. Je n'en sais rien. Il m'a dit de dormir sur mes deux oreilles, répondit Lucien, sans oser regarder Esther. S'il en est ainsi, j'obéis avec cette soumission canine dont je fais profession, dit Esther, qui passa son bras à celui de Lucien et l'emmena dans sa chambre en lui disant « As-tu bien dîné, mon Lulu, chez cet infâme Nucingen ? La cuisine d'Asie empêche de trouver un dîner bon, quelque célèbre que soit le chef de la maison où l'on dîne. Mais Carême avait fait le dîner comme tous les dimanches. » Lucien comparait involontairement Esther à Clotilde. La maîtresse était si belle, si constamment charmante, qu'elle n'avait pas encore laissé approcher le monstre qui dévore les plus robustes amours, la satiété. Quel dommage, se dit-il, de trouver sa femme en deux volumes. D'un côté la poésie, la volupté, l'amour, le dévouement, la beauté, la gentillesse. Esther furetait, comme furettent les femmes avant de se coucher. Elle allait et revenait, elle papillonnait en chantant. Vous eussiez dit d'un colibri. De l'autre, la noblesse du nom, la race, les honneurs, le rang, la science du monde, et aucun moyen de les réunir en une seule personne, s'écria Lucien. Le lendemain, à 7 heures du matin, en s'éveillant dans cette charmante chambre rose et blanche, le poète se trouva seul. Quand il eut sonné, la fantastique Europe accourut. Que veut monsieur ? Esther ! Madame est partie à 4h15. D'après les ordres de monsieur l'abbé, j'ai reçu franc de port un nouveau visage. Une femme ? Non, monsieur. Une anglaise. Une de ces femmes qui vont en journée la nuit. Et nous avons ordre de la traiter comme si c'était madame. Qu'est-ce que monsieur veut faire de cette bringue-là ? Pauvre madame. A-t-elle pleuré quand elle est montée en voiture ? Enfin. Il le faut, s'est-elle écriée. J'ai quitté ce pauvre chat pendant qu'il dormait, m'a-t-elle dit en essuyant ses larmes. Europe, s'il m'avait regardé, ou s'il avait prononcé mon nom, je serais restée, quitte à mourir avec lui. Tenez, monsieur, j'aime tant madame, que je ne lui ai pas montré sa remplaçante. Il y a bien des femmes de chambre qui lui en auraient donné le crève-cœur. L'inconnu est donc là, mais monsieur, elle était dans la voiture qui a emmené madame, et je l'ai cachée dans ma chambre, selon mes instructions. Est-elle bien ? Aussi bien que peut l'être une femme d'occasion, mais elle n'aura pas de peine à jouer son rôle si monsieur y met du sien, dit Europe en s'en allant chercher la fausse Esther. La veille, avant de se coucher, le tout-puissant banquier avait donné ses ordres à son valet de chambre, qui dès 7 heures introduisait le fameux Louchard, le plus habile des gardes du commerce, dans un petit salon où vint le baron en robe de chambre et en pantoufles. « Fufu, vous êtes moqué de moi !» dit-il en réponse aux salutations du garde. « Ça ne pouvait pas être autrement, monsieur le baron. Je tiens à ma charge, et j'ai eu l'honneur de vous dire que je ne pouvais pas me mêler d'une affaire étrangère à mes fonctions. Que vous ai-je promis ? De vous mettre en relation avec celui de nos agents qui m'a paru le plus capable de vous servir. Mais monsieur le baron connaît les démarcations qui existent entre les gens de différents métiers. Quand on bâtit une maison, on ne fait pas faire à un menuisier ce qui regarde le serrurier. Eh bien, il y a 2 polices. La police politique, la police judiciaire. Jamais les agents de la police judiciaire ne se mêlent de police politique. Et vice-versa. Si vous vous adressiez au chef de la police politique, il lui faudrait une autorisation du ministre pour s'occuper de votre affaire. Et vous n'oseriez pas l'expliquer au directeur général de la police du royaume. Un agent qui ferait de la police pour son compte perdrait sa place. Or, la police judiciaire est tout aussi circonspecte que la police politique. Ainsi, personne, au ministère de l'Intérieur ou à la préfecture, ne marche que dans l'intérêt de l'État ou dans l'intérêt de la justice. S'agit-il d'un complot ou d'un crime ? Eh mon Dieu, les chefs vont être à vos ordres. Mais comprenez donc, monsieur le baron, qu'ils ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper de 50 000 amourettes de Paris. Quant à nous autres, nous ne devons nous mêler que de l'arrestation des débiteurs. Et dès qu'il s'agit d'autre chose, nous nous exposons énormément dans le cas où nous troublerions la tranquillité de qui que ce soit. Je vous ai envoyé un de mes gens, mais en vous disant que je n'en répondais pas. Vous lui avez dit de vous trouver une femme dans Paris. Contenson vous a carotté un billet de 1 000, sans seulement se déranger. Autant va aller chercher une aiguille dans la rivière que de chercher dans Paris une femme soupçonnée d'aller au bois de Vincennes et dont le signalement ressemblait à celui de toutes les jolies femmes de Paris. « Gondanson, dit le baron, ne pouvait-il pas me dire la vérité, au lieu de me carotter un billet de 1 000 francs ?»« Écoutez, monsieur le baron, dit Louchard, voulez-vous me donner 1 000 écus ? Je vais vous donner, vous vendre un conseil. Faut-il 1 000 écus le gonzeil ? Demanda Nucingen. Je ne me laisse pas attraper, monsieur le baron, reprit Louchard. Vous êtes amoureux, vous voulez découvrir l'objet de votre passion, vous en séchez comme une laitue sans eau. Il est venu chez vous hier, m'a dit votre valet de chambre, 2 médecins qui vous trouvent en danger. Moi seul, puis vous mettre entre les mains d'un homme habile. Et que diable, si votre vie ne valait pas 1 000 écus, dites-moi le nom de cet homme à pile. Et comptez sur ma générosité. » Louchard prit son chapeau, salua, s'en alla. « Diable d'homme !» s'écria Nucingen. « Venez, donnez, prenez garde, » dit Louchard avant de prendre l'argent, « que je vous vends purement et simplement un renseignement. Je vous donnerai le nom, l'adresse du seul homme capable de vous servir, mais c'est un maître. « Va te faire fiche !» s'écria Nucingen. Il n'y a que le nom de Fairchild qui faille 1 000 écus. Et encore, quand il est signé au pas d'un billet, j'offre 1 000 francs. Louchard, petit finaud qui n'avait pu traiter d'aucune charge d'avoué, de notaire, d'huissier ni d'agréé, guigna le baron d'une manière significative. Pour vous, c'est 1 000 écus ou rien. Vous les reprendrez en quelques secondes à la bourse, lui dit-il. « J'offre 1 000 francs !» répéta le baron. « Vous marchanderiez une mine d'or, » dit Louchard, en saluant et se retirant. « J'aurai l'adresse par un billet de 500 francs !» s'écria le baron, qui dit à son valet de chambre de lui envoyer son secrétaire. Turcaret n'existe plus. Aujourd'hui, le plus grand comme le plus petit banquier déploie son astuce dans les moindres choses. Il marchande les arts, la bienfaisance, l'amour. Il marchanderait au pape une absolution. Ainsi, en écoutant parler Louchard, Nucingen avait rapidement pensé que Contenson, étant le bras droit du garde du commerce, devait savoir l'adresse de ce maître en espionnage. Contenson lâcherait pour 500 francs ce que Louchard voulait vendre 1000 écus. Cette rapide combinaison prouve énergiquement que si le cœur de cet homme était envahi par l'amour, la tête restait encore celle d'un loup-cervier. « Allez, vous-même, messieurs, » dit le baron à son secrétaire, « chez Gondanzon, l'espion de Lichard, le carte du commerce. Mais allez-en cabrioler, bien fite, et amenez le Saint-Continent. Chatan, vous passerez par la porte du Chartin. Voici la clé, car il est utile que personne ne voit cet homme-là chez moi. Vous l'introduirez dans la petite pavillon du jardin. D'âger de faire ma commission avec intelligence. » On vint parler d'affaires à Nucingen, mais il attendait Contenson. Il rêvait d'Esther. Il se disait qu'avant peu de temps, il reverrait la femme à laquelle il avait dû des émotions inespérées. Et il renvoya tout le monde avec des paroles vagues, avec des promesses à double sens. Contenson lui paraissait l'être le plus important de Paris. Il regardait à tout moment dans son jardin. Enfin, après avoir donné l'ordre de fermer sa porte, il se fit servir son déjeuner dans le pavillon, qui se trouvait à l'un des angles du jardin. Dans les bureaux, la conduite, les hésitations du plus madré, du plus clairvoyant, du plus politique des banquiers de Paris paraissaient inexplicables. Qu'a donc le patron ? Disait un agent de change à l'un des premiers commis. On ne sait pas. Il paraît que sa santé donne des inquiétudes. Hier, Madame la baronne a réuni les docteurs Desplein et Bianchon. Un jour, des étrangers voulurent voir Newton, dans un moment où il était occupé, à médicamenter un de ses chiens nommé Bioti, qui lui perdit, comme on sait, un immense travail, et à laquelle, Bioti était une chienne, il ne dit pas autre chose que « Ah, Bioti, tu ne sais pas ce que tu viens de détruire. » Les étrangers s'en allèrent en respectant les travaux du grand homme. Dans toutes les existences grandioses, on trouve une petite chaîne Bioti. Quand le maréchal de Richelieu vint saluer Louis XV après la prise de Mahon, un des plus grands faits d'armes du XVIIIe siècle, le roi lui dit « Vous savez la grande nouvelle, ce pauvre Lancemat est mort. » Lancemat était un concierge au fait des intrigues du roi. Jamais les banquiers de Paris ne surent les obligations qu'ils avaient à Contenson. Cet espion fut cause que Nucingen laissa conclure une affaire immense où sa part était faite et qu'il leur abandonna. Tous les jours, le loup-cervier pouvait viser une fortune avec l'artillerie de la spéculation, tandis que l'homme était aux ordres du bonheur.